de nos programmes.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.
Votre commandant de bord au genou sous la voix de l'Amérique en direct de Washington DC, la grande capitale de UHC. Le groupe Chalaban a fait un style hybride distinct de son afro-arabe et d'influence en hongroise. On aura bien sûr le grand lui-même, le représentant même du groupe, c'est Saïd TCT, pour nous parler de ce groupe, pour nous dire exactement ce qu'ils font. Il sera notre invité, ils sont en tournée ici aux États-Unis. Une musique super, allons-y. Oui, les paroles de toutes ces chansons sont en arabe. Ce groupe se concentre sur les styles musicaux marocains des Gnawa et Hassani. L'artiste, comme je le disais tantôt, sera avec nous pour nous en parler un peu plus. Donc, on écoute Sigma.
Bye.
avec nous, monsieur Saïd. Saïd, je veux bien être sûr que je prononce bien le nom. C'est Tshiti?
Absolument parfait.
Ah, ben d'accord.
Pour un francophone, c'est facile.
D'accord. Alors, Saïd, c'est vraiment un plaisir, un honneur, d'abord, de vous rencontrer personnellement. J'ai écouté vos musiques, votre chanson, votre créativité. Vraiment, moi, c'est une découverte. J'adore le jazz, j'adore le blues. Et moi, quand j'ai suivi beaucoup de sons de Chabalang, j'ai trouvé que c'est... J'ai appelé ça, j'ai parlé même à mon frère qui est aussi un artiste, que ça c'est le jazz africain, carrément.
Je ne suis pas un théoricien de musique, moi je dis je suis un musicien. Ouais. Après, je joue ma musique.
Ouais.
La définir, la mettre dans un cadre, est-ce que c'est du jazz, est-ce que c'est du blues, ben je dis ça c'est pas ma mission, c'est le travail des critiques qui peuvent me dire qu'est-ce que je joue.
Ouais.
Et je suis un peu impressionniste dans ma procédure, donc je suis plus, puisque je ne suis pas un académicien.
Ouais.
Ma mission, c'est jouer de la musique, la définir et de parler de ma musique. J'ai jamais réfléchi qu'est-ce que je vais produire comme musique.
Ouais.
Bien sûr, il y a beaucoup d'espace d'improvisation dans cette musique, ce qui est normal dans le jazz. Peut-être ce qui n'est pas très jazz, c'est le côté monotone, mais pas dans le sens péjoratif, qui vient plutôt de la trance. Donc je dis que c'est une musique quand même où il y a beaucoup de changements de rythme, mais ça reste une musique très très répétitive et très rythmique, ce qui est très normal dans une musique africaine ou une musique afro-arabe. Je joue.
Et du coup vous, et la façon dont vous définissez, partons un peu de vos origines, hein, où vous avez fait de la musique, vous avez étudié la musique à l'université de Rabat déjà au Maroc, chez vous?
Non, en fait à Rabat j'ai étudié le théâtre.
Ah.
C'est moi de la musique, c'est une formation traditionnelle. Mon père est musicien traditionnel, ma mère aussi, il vient du groupe traditionnel de la musique berbère. Après c'était moi le premier qui voulait faire une formation artistique académique, mais j'ai choisi le théâtre comme un truc que je voulais absolument découvrir et faire dans ma vie.
Oui.
Et la traditionnelle, c'est un truc inné. Ça vient de la tradition, ça vient de... On ouvre les yeux et on a un instrument.
Ouais.
Et on devient musicien, en fait, en Afrique. Mais le théâtre, je me suis dit, ça, c'est... Il faut l'apprendre, il faut le... Et donc, j'ai pris le risque d'aller à Rabat faire 4 ans d'une formation académique à l'Institut supérieur d'art dramatique. Et voilà. Après, bien sûr, ce sont mes traditions qui ont gagné. Je suis plus présent sur scène comme musicien que comme comédien.
Et aujourd'hui, Saïd, vous n'habitez pas chez vous au Maroc, vous êtes en Hongrie, c'est ça?
Oui, j'habite à Budapest.
Oui,
depuis 24 ans maintenant. Donc, je suis installé à Budapest, en Hongrie, en plein Europe centrale. Un pays extraordinaire, joli, avec d'autres traditions. Ça m'a permis aussi de m'épanouir.
Oui, exactement. Et c'est ce que j'allais poser comme question. Comment ils acceptent votre musique, votre style de musique là-bas?
Vous savez, c'est une question du voyage de cette musique africaine. Moi, je dis, les Gnawa, ça vient de l'Afrique subsaharienne. C'est installé en Afrique du Nord au XVIe siècle. Et donc, c'est un voyage qui a permis, pendant une période, au Maroc en général, le sud de l'Algérie et Tunisie. Maintenant, c'est le XXIe siècle, je dis, Saïd prend son instrument, et voilà, il amène cette musique en Europe centrale. Je n'ai pas demandé l'autorisation à personne, c'est une musique qui doit voyager, et je la fais voyager. Donc, je suis peut-être le premier musicien afro, ou bien musicien gnawa, qui s'installe en Europe centrale. La puissance de cette musique, c'est exactement comme ce qui s'est passé au Maroc. C'est une musique qui naît en tant que fusion. Et c'est arrivé, c'est mélangé avec... tradition animaliste, et c'est mélangé avec l'islam, les traditions berbères, juives, multiculturelles du Maroc, qui a produit... Le nouveau produit s'appelle Gnawa. Aujourd'hui, Saïd amène cette musique en Europe centrale. Comment on va appeler ça? Dans quelques années, je ne sais pas, mais je suis fier que, voilà, je m'installe, je n'impose rien. Au contraire, c'est une musique de partage. Donc le fait que je suis en Hongrie, je suis ouvert sur les musiciens et les musiques hongroises, la musique de la région qu'on dit du bassin de Karpat. Et ça fait aussi une fusion plus originale à mon avis, où je force rien, c'est une musique de partage. Quand j'invite un musicien, je n'ai pas des partitions à lui donner. Au contraire, je lui dis voilà, c'est ce que j'amène, tu peux me dire c'est ce que tu amènes.
Oh, wow. Et
comme ça, on fait un truc ensemble.
Ensemble.
Donc moi je dis c'est exactement la puissance de cette musique, c'est son ouverture et sa puissance et son adaptation.
Son adaptation, oui.
Et donc, je peux dire oui, c'est ça l'originalité de cette musique. Il est marocain et il est né en Hongrie aujourd'hui.
Et le gnawa, ce n'est pas le seul style de musique que vous pratiquez, n'est-ce pas?
Heureusement, je viens d'une ville où il y a plusieurs.
Ouais.
Déjà, mon père il vient de cette tradition africaine noire. Ma mère, elle est berbère. Et donc, de naissance, je suis bilingue, donc berbéro-arabe.
Ouais.
Dans un.
Vous êtes chanceux alors.
Oui, absolument. C'est aussi la spécificité du Maroc. C'est un pays africain, c'est un pays arabe, c'est un pays où l'Espagne n'est pas loin que de 10 minutes de Angers.
Ouais.
Donc il y a tellement d'influences. Donc j'ai beaucoup d'influences de la musique aussi du nord du Maroc, du centre. Je donne plus de présence au style du sud du Maroc. À la musique africaine parce que oui c'est ma naissance, c'est mon univers d'inspiration.
Exactement.
Mais je suis absolument ouvert sur beaucoup plusieurs styles de musique qui vient du nord et du centre.
Du nord, donc
vous allez trouver du shabi, du rythmique, d'une nouvelle création que j'ai faite avec les musiciens en Hongrie qui appartient au répertoire du groupe Chalaban.
Oui.
Où je joue beaucoup de musique gnawa avec de la musique du trans et beaucoup de musique hassani qui vient des traditions afro-arabes, mais d'une arabe plutôt classique, plus mon entendu, c'est du Maroc, qui vient du Sahara. On a quelques morceaux, comme j'ai dit, du Nord. Donc je ne m'enferme jamais dans un seul style parce que je me considère que oui, je suis un citoyen marocain et donc il développe un nouveau concept en Europe centrale.
Et là, vous vous trouvez ici aux États-Unis, vous êtes aux États-Unis. Évidemment, on doit aussi se poser la question. Et est-ce que Saïd essaye maintenant de faire accepter aussi sa musique ici, en tournée dans plusieurs États aux États-Unis, où c'est une musique qui a déjà été acceptée depuis toujours. Je pense que la question, je vais poser comment les Américains reçoivent cette musique des Saïd.
Bah déjà. Qui sont les Américains? Parce qu'en voyageant, je découvre un énorme pays. Je dis, j'ai toujours les notions du pays, c'est comme la France, la Hongrie, mais là, je voyage entre le Zaïre, le Maroc, l'Afrique du Sud, et c'est énorme.
Ouais.
Et culturellement, c'est riche. Et jusqu'à maintenant, on a vraiment de très très bons concerts. Et bien sûr, dans des contextes aussi différents. Donc on a joué dans des scènes comme du théâtre, on a joué dans des pubs, dans des clubs de musique conviviale. On va jouer dans quelques concerts en Floride, en plein air. La réception, donc je dis, l'avantage ici, c'est que j'ai rien à définir, j'ai rien à présenter parce que les gens ils sont habitués à la fusion. On sait qu'il y a les traditions africaines, ils ont une présence aux États-Unis. Après, quand je parle du blues ou un truc que je joue un morceau du sud du Maroc qui est très blues, je montre aux gens que voilà, on ne crée rien.
Ouais.
On recompose.
Ouais.
Et tout.
Ouais.
Les sons qu'on croise dans cette vie, ça c'est dans un pays pareil comme les États-Unis où le multiculturalisme fait partie de l'identité.
Exactement.
Ça c'est, pour moi, c'est une mission facile que faire accepter cette musique chez les Américains.
Ouais.
Ça, je le sens, absolument. Ça marche.
Et là, je sais que vous avez joué à côté de chez nous, ici, à Baltimore, dans le Maryland. Là, vous êtes à Miami. C'est quoi le prochain, votre prochain voyage?
Bah, de Miami, Miami, on quitte directement au Nouvelle-Orléans. Et là, je suis hyper excité parce que c'est une musique où il y a des influences.
Ah oui, c'est historique,
comme musique. Ah oui, musicalement, et la présence.
C'est un festival, hein.
Exactement. Ouais. Et donc, là, c'est faire rencontrer la musique marocaine aux gens de Nouvelle-Orléans et jouer cette musique, c'est excitant. Parce que j'espère que j'aurai l'occasion de faire des jam sessions avec les musiciens locaux pour voir ce que ça peut donner.
Et
là, on est absolument noir. On va passer 4-5 jours, je pense, à Nouvelle-Orléans. Je pense qu'on aura des occasions et j'invite absolument les musiciens qui sont à Nouvelle-Orléans qui peuvent venir avec leurs instruments.
Ouais.
Je dis que mon stage, mon espace est ouvert. Je suis vraiment ouvert pour partager un happening musical très très spécial.
Et pourquoi pas Washington DC, hein? Ça allait me faire plaisir aussi de voir
Ah ben, vous savez, nous on vient pour tourner un mois, donc on aimerait bien vraiment toucher tous les pays. Donc, sur un mois, on peut donner une quinzaine de concerts. J'espère pour une prochaine tournée, dans un contexte international plus clément, plus facile, on pourrait faire plusieurs d'autres États parce qu'on n'a pas fait un tiers. Ouais. De l'espace américain, on a voyagé beaucoup, on a fait 4 vols, rien au sein des États-Unis.
Ouais.
Mais j'espère qu'on prochainement on arrivera à voyager dans d'autres États.
Voilà. Exactement. Et quels sont, Saïti, je peux poser cette question, vous avez commencé à faire cette musique il y a longtemps, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier? Est-ce que c'est faire accepter cette musique ou pas du tout?
Dans le domaine politique, on appelle la culture, c'est le soft power. Le soft power, on n'a rien à imposer. Vous savez, ça veut dire, j'ai dit que c'est une musique, je ne veux pas la faire accepter, je veux juste la jouer. Et quand je la joue, et je croise même 4 spectateurs curieux de ce que je fais, déjà pour moi, ça veut dire que je communique quelque chose à quelqu'un. C'est tout ce que je veux. Ben, donc il n'y a pas un intérêt idéologique, je veux pas africaniser la musique du monde, je veux pas l'européaniser. Il n'y a rien plus naturel chez l'être humain, c'est si tu sens que la musique est l'expression de ton âme, et tu la fais et tu fais exprimer ton âme, c'est tout ce que je veux. Après, c'est le pas. Donc l'objectif, c'est communiquer quelque chose. Je sens que je communique. C'est au public aussi de faire le pas et venir m'écouter. Ou il va m'aimer, ou il va me détester, ou il restera neutre. Donc c'est ça le... Donc j'en pense rien.
Mais ça c'est vrai. D'abord, on sent que c'est la passion, on sent que c'est d'abord la de l'art, en partant de là. Mais est-ce que vous vivez aussi de cette musique? Qu'est-ce que vous vous retrouvez?
Oui, je le fais patiemment parce que, vous savez, je le fais pas depuis hier ou avant-hier. Je suis pas du showbiz, que je fais.
Ouais, wow.
Je fais, oui, donc ce qui est bien, c'est qu'on a des périodes où on monte très très haut et on arrive, on fait des nouveaux albums, où je suis sur les plus grandes scènes et tout ça. Et après, voilà, quand tu n'es pas dans une période de création où tu touches les sommets, il faut accepter aussi qu'il faut toucher le bas et aller tranquillement et se relancer. C'est pour cela qu'on ne va jamais vieillir dans ce métier. Donc c'est un métier où tu vas pas dire, voilà, je suis le dieu du monde aujourd'hui, tout le monde me connaît, je vais pas. Non. Tu te calmes, tu te prépares et tu te relances. C'est la création qui me fait vivre. Donc je sais que le jour où je suis pas créatif, c'est fini.
Ouais.
Donc je suis mort. Et donc c'est pour cela, pour rester vivant, je joue de la musique. Et malgré les difficultés, tout ce qu'on peut dire, c'est ma passion.
Ouais.
Heureusement, aujourd'hui, en plein pandémie, je suis en train de tourner les États-Unis. Qu'est-ce que je veux pas plus que ça. Je suis content, là. Comme on dit, alhamdoulilah.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Moutou, seulement ici, sur RMJ, sur VOA. We'll be right back. intégrale avec votre commandant de bord. Roger Moutou, seulement ici, dans RM Jungle, sur VOA Afrique. Yeah. Chalaban installé en Hongrie, un groupe dirigé par un Marocain qui pratique sa musique là-bas en Hongrie et il est en tournée aux États-Unis. Le groupe Chalaban et lui, c'est Saïd Tichiti qui nous en parle aujourd'hui. Une émission spéciale avec l'artiste Malini. Par ailleurs, RM Show continue en deuxième partie avec beaucoup plus de questions à notre invité de ce soir. God bless. Peace Africa. Toujours avec mon invité de ce soir, Saïd Tichiti, qui nous parle bien sûr de son groupe. Ils sont en tournée ici, hein, c'est leur première tournée en Amérique du Nord, aussi de Montréal à New York, à Miami et Los Angeles, et bien sûr un arrêt aussi à la Nouvelle-Orléans. Ils nous parlent de leur groupe et aussi de leur album, hein, le tout dernier son, Glenim, dans lequel ils mentionnent sa ville natale au sud du Maroc, loin de grands centres de grandes villes que nous connaissons, hein, de Casablanca ou alors de Marrakech. Ils sont à plusieurs dans ce groupe, beaucoup d'Hongrois aussi, parce que c'est quand même un groupe qui est installé en Hongrie. Et ils sont en tournée, comme je le disais, nous a accordé cette interview avec nous ce soir. Donc n'allez nulle part ailleurs, plus de questions. On écoute ce groupe. Ah oui, super chanson, Hamdoulia.
qui est une chanson de votre nouvel album, n'est-ce pas?
Oui, le dernier, oui.
Et le dernier album, c'est Gleaming?
Gleaming, oui.
Yeah. Et de quoi... quels sont les thèmes que vous abordez dans cet album?
C'est bien que vous parlez des titres de mes albums. Sidi Nabilel, c'est le symbole de la libération de l'homme noir, de l'homme musulman. Donc Sidi Nabilel, c'est la personne, la seule auquel les Gnawa, les Marocains noirs se réfèrent pour réclamer leur liberté. C'est notre symbole. Vous savez, toute musique traditionnelle, rituelle au Maroc, est liée à un saint local au Maroc. Je veux dire, les Hamadcha, ils ont leur saint, les Issawa, c'est la même chose, ce sont les confréries religieuses qui ont leur tradition. Les Gnawa n'ont pas un marabout au Maroc, ils se réfèrent à Sidi Nabilel qui était le muezzin du prophète à l'époque, et qui symbolise la liberté de l'homme noir chez tous les musulmans. L'islam n'a pas lutté frontalement avec l'esclavage, mais il a fait un pas pour franchir l'esclave. Et Bilal était un homme d'origine éthiopienne franchi et qui est devenu libre et qui a une grande place chez les musulmans noirs. Et donc, aujourd'hui, l'esclavage reste toujours un sujet qui est tabou d'ailleurs, même au monde musulman et au monde occidental.
Oui.
Et les traces de l'esclavage ne sont jamais disparues. Vous savez, en Mauritanie, on a aboli l'esclavage, je pense, en 1983. C'est très récent. Et même l'histoire personnelle de mon père, il était franchi par une famille arabe. Donc je ne suis pas un homme qui a 200 ans, ça ne fait pas. C'est vraiment mon père physique.
Oui.
Et donc, vous savez, cette question d'esclavage, on ne demande pas aujourd'hui un rétablissement, ni l'argent, ni récompense, ni rien. On demande juste une reconnaissance de ce qui était, que l'homme noir, oui, il était victime, et on n'a jamais mis un point pour réparer ça. Donc, je dis au monde arabe, on ne parle même pas du sujet. En Occident, au moins, ça existe comme débat. Et donc, oui, c'est une chanson que je le fais en hommage à l'homme noir, en hommage à la liberté de l'homme noir, et au moins relancer ce débat, c'est tout ce que je veux. Et le juste dans l'album précédent, j'ai fait un hommage à Madiba, c'est à Nelson Mandela. Et je peux dire que c'est le Sidi Nabilel de l'homme du monde moderne. Je ne le fais pas parce que je suis lié à une religion ou quoi que ce soit, ça m'intéresse. C'est un homme qui a consacré sa vie pour libérer l'homme noir et l'homme africain. Et donc, pour moi, ce sont des symboles, heureusement, qui ne sont pas liés à une seule religion. C'est la liberté générale de l'homme dans sa totalité. L'homme, que ce soit blanc et tout, mais il faut parler de ça, il faut chanter ça, il faut transmettre ça aux nouvelles générations si on veut réellement lutter contre les restes de l'esclavage. Parce que...
Je sens un combat personnel.
Absolument. Ouais. Absolument, parce que je dis que oui, je suis descendant d'esclaves, mais je ne suis pas un esclave. Et je ne veux pas que le regard reste comme ça. Je dis que c'est un débat, c'est une lutte qui ne doit pas être la mienne, c'est une lutte de tous les Africains. Mais je dis non, c'est pas que tous les Africains, c'est vraiment une lutte humaine. Aujourd'hui, je suis prêt de dire que c'est l'homme blanc qui est en danger en Afrique du Sud à cause des Noirs. Oui, l'homme noir doit aller lutter contre l'injustice. Et l'esclavage, c'est une injustice faite aux Noirs. Et l'homme noir, il doit défendre la justice là où il faut le défendre. Il faut la défendre.
Ouais. Est-ce que cette reconnaissance, Saïd, comment vous comptez la recevoir, hein? Vous avez parlé de comment vous. Tout ce que vous demandez, c'est l'admission. Mais comment vous comptez concrètement recevoir cette reconnaissance-là de l'homme noir, hein, dans votre culture, par exemple?
Dans ma culture, je dis, j'attends rien de l'autre. S'il y a une lutte, il doit venir de moi-même.
Ouais.
Je dis, cette image, que négative de l'Africain, soumis et tout ce que vous voulez, qui n'est pas ponctuel, qui se développe et tout ça, je dis que non. Moi, Saïd, personnellement, c'est mon comportement actuel. Je suis un malade avec le temps. Je suis vraiment un type avec l'homme blanc avec qui je travaille. Je dis que peut-être qu'il y a une image sur les Africains, leur gestion du temps et ça, mais là, je vis ici. Moi, si quelqu'un me dit à 35, je suis 35, c'est à 2-2, et qu'il y a un changement, je dois l'annoncer d'avance. Ça, c'est pour moi, c'est le principe humain. Et donc, je dis, s'il y a une lutte que l'homme noir doit faire, c'est vraiment faire une lutte contre soi-même. Il y a un racisme exercé par les Noirs contre eux-mêmes. Quand on dit que oh, l'homme noir est très puissant au lit, tous les Africains ils sont fiers que sexuellement ils sont waouh, ils sont exploités. Ouais. Non, je dis que c'est pas vrai. L'homme noir, la sexualité, il est absolument universel, il n'est pas lié à la couleur de peau, à la race. Quand on dit à vous les Noirs, vous êtes physiquement, vous êtes plus fort en sport ou en musique, c'est faux. Vous savez, ça veut dire les années 80, les Britanniques, ils étaient plus forts en miles, du muscle, en athlétisme. Avec le temps, on a commencé à voir les Marocains, les Éthiopiens, les Kenyans qui commencent à dominer. Il n'y a aucun Britannique aujourd'hui qui domine, c'est du sang. Il y a un travail qui est fait. Et après, imaginez que j'ai deux de mes enfants qui veulent nés en Hongrie, ils voulaient faire de la musique. Et quand on voulait choisir avec leur mère quel instrument ils doivent jouer, leur mère m'a dit « Qu'est-ce que tu penses, le violon et le violoncelle ?» Ma réponse était « Ah non, ce ne sont pas des instruments noirs. » Et comment, il n'y a pas un instrument noir. Je dis « Le violon, ça reste un instrument réservé aux blancs quand même, ça reste aux les gypsies. » Ça, c'est dans ma tête.
Oui.
Ce sont mes complexes. Ouais. J'ai mis mon fils à l'école de musique classique, qui est noire, donc la musique classique en Hongrie. Aujourd'hui, il fait sa deuxième année à l'Académie de Vienne. Donc, je dis que ça prouve que si ça, je continuerai dans ma logique raciale, mon fils va jamais jouer de la musique ou jouer le violon. C'est à cause de mes complexes, c'est oui. Pas parce qu'il n'est pas compétent. Donc, nous, les Africains, on doit vraiment se libérer des préjugés qu'on a. Il n'y a pas un truc réservé aux blancs ou un truc réservé. Non, ça dépend vraiment de moi. Je dis ça, c'est d'abord, je dois faire ce jihad. C'est le mot jihad qu'on utilise dans l'islam qui fait peur.
Oui, oui,
qui fait peur. Et les blancs, ils n'ont pas. Je dois faire cette lutte.
Oui.
Vraiment, la plus grande lutte que je dois faire, c'est contre moi-même, contre mes complexes. Et je dois me libérer pour que les prochaines générations se libèrent. C'est ça l'objectif final. On a les complexes qui sont absolument dans notre tête et on a du mal à les dépasser. Et c'est le temps qu'on commence à... On n'est pas emprisonné par le blanc, on n'est pas emprisonné par l'indien. Non, on est emprisonné par nos complexes. Et on doit vraiment mettre fin. Et allons ensemble, et avec les blancs, avec toutes les races, ensemble. L'Africain n'a aucun complexe. Il peut être ingénieur, il peut être musicien, il peut être athlète, il peut être tout ce que vous voulez, mais il doit dépasser, ses propres complexes.
Non, c'est profond, hein, ça qu'on venait de nous dire. C'est vraiment profond, c'est trop, trop profond même. Trop profond, moi je pense ça. C'est toute une leçon que vous nous avez donnée. Toute une leçon.
Merci, je suis content. On apprend de la vie, c'est tout.
Alors, on va juste finir avec le français, on va passer en anglais. Mais merci d'abord pour nos amis, les francophones qui nous suivent. Merci Saïd de nous avoir accordé cette interview en français. Et pour tous nos amis qui sont en train de vous capter dans le monde francophone, un message que vous avez à leur donner?
Ben voilà, donc c'est une autre identité. Au francophone, je pense qu'on a un lien à la langue française. Donc c'est un lien, donc on se sent, comme dire, quand on entend la musique marocaine, la musique zaïroise, la musique québécoise, tout ça, ça fait aussi un lien, c'est extraordinaire comme appartenance.
Ouais.
Et ce qui fait que, voilà, donc j'invite tous les francophones de New Orleans qui viennent nous voir
Oui, il y a beaucoup de francophones là-bas hein, qui nous suivent.
Exactement, ouais. C'est la ville la plus francophone. J'espère qu'il est venu ce samedi, donc en plein air, jouer une musique marocaine. C'est assez exotique quand même.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Moutou, seulement ici, sur RM Show, sur VOA, Afrique.
Merci d'être resté à l'écoute de cette émission spéciale avec notre invité Saïd Tichiti pour nous parler de leur tournée, mais aussi nous parler de leur musique, de l'objet de cette belle musique qui est un peu un jazz marocain, hein, qui est le style un peu avec le Gnawa et Hassani du Maroc. La nuit pour du conseil, les amis, on se retrouve demain à Jablet. Peace Africa.
Vous écoutez étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. C'était RM Show.